Bonjour, je suis Lénaïque Durel, je suis responsable des expositions et j'ai eu la chance extraordinaire d'inviter il y a 3 ans Fred. Vous venez de le voir à l'écran, vous l'avez entendu et tout. C'est un souvenir, je veux juste évoquer sa venue ici. C'était, je le disais, on parle des mondes de l'enfance. Moi, j'ai découvert Philémon dans Pilote. Je ne comprenais pas toujours tout de l'histoire, mais ça m'émerveillait complètement. Je basculais dans un univers des couleurs extraordinaires. Et puis j'étais fascinée par ce Philémon en marinière, en pantalon noir, pieds nus, et vraiment très en colère contre son incrédule de père. Parce que quand on est enfant, quand on ne vous croit pas, c'est quelque chose qui est assez terrible. Et je me disais, mais enfin, pourquoi ne rentre-t-il pas dedans? Et en fait, c'était les deux pôles de l'histoire de Philémon. Et donc j'ai eu cette envie, je me suis dit, mais quel est l'étonnant voyageur, plus étonnant que Philémon, qui voyage sur les lettres de l'Atlantique. Et c'est quand même, Fred est un auteur extraordinaire, 15 lettres de l'océan Atlantique, 15 îles, l'océan, la lettre A, Philémon bascule dedans à travers le puits, et ça devient des aventures extraordinaires. Et donc, je lui avais demandé d'exposer les originaux de Philémon. Il les avait tous, c'était il y a 3 ans, il les avait tous à l'époque encore en sa possession, mais dis-nous, je ne les ai jamais montrés. Elle me dit, je ne veux pas les vendre, je garde tout cela précieusement, je veux garder l'intégralité. Ce sont des planches beaucoup plus grandes que celles que vous avez au mur, parce que du coup, pour la première fois ici, à Étonnant Voyageur, je me suis dit, eh bien tant pis, il n'y aura pas d'originaux au mur, mais ce qui compte, c'est que Fred soit présent parmi nous, vienne nous rencontrer, vienne à la rencontre du public. Et donc, j'ai fait toute une série de planches qui me semblaient les plus parlantes. Et les auteurs qui étaient présents se sont tous précipités pour dire tout ce qu'ils lui devaient. Parce qu'en fait, au niveau écriture de la bande dessinée, il a apporté des choses incroyables. C'est un univers où il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la case. Et il joue extraordinairement avec, il déstructure, il avait des pages où il s'amuse à créer 2 sens de lecture. Sans parler évidemment de toute la poésie, de tout l'imaginaire qui est extraordinaire. Bon, vous avez vu le film, c'est à la fois l'humour, l'absurde, la mélancolie, effectivement, qui était très, très présente aussi chez lui. Et je crois qu'il a passé 3 jours. Philémon, c'est quelque chose qu'on peut toujours lire et relire. Énormément d'auteurs de bande dessinée, je vous dis sans réclame, c'est encore à découvrir. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il avait 27 planches de la 16e histoire de l'aventure de Philémon qui était faite, et en fait il était assez fatigué physiquement puisqu'il avait eu quelques opérations cardiaques, et il me disait il faut que je finisse cette aventure quand même. Voilà, la dernière aventure de Philémon est sortie en février dernier, juste avant qu'il nous quitte, et les 27 planches sont là, et il y a une façon merveilleuse avec son éditeur. Voilà, je fais son éditeur François Lebescon, qui vient juste de sortir, vous ne le trouverez pas. Il arrive directement, c'est le seul exemplaire de presse, mais il va sortir d'ici un mois. Ce sont les entretiens avec son éditeur. Et donc l'aventure est très très belle. C'était la locomotive à pattes. La locomotive à pattes marche à l'imagination. Et quand l'imagination s'arrête, elle s'arrête aussi. Il faut la relancer. Et en fait, ils ont, vous avez les 27 premières planches qui sont. Et là, on retourne sur le A, on retourne sur la première aventure de Philémon. Voilà, et la seule chose que je vais ajouter, c'est qu'il nous a laissé, lors d'une grande rencontre, il a terminé, il nous a laissé complètement émus en nous disant, voilà moi comment je fonctionne, dis les histoires, il me dit, je me lève un matin, la locomotive rentre dans ma cuisine. Et comment je fais maintenant? Je dis, justement, il m'en faut d'imagination pour la faire avancer et construire l'histoire. Et puis à ce moment-là, elle me dit, tu vois la mouette là, regarde ce qu'elle fait. C'est une petite séductrice, là, elle marche là le long du rempart, elle est en train d'ameuter les autres. Regarde, ils sont sur le toit, ils la regardent. Et puis regarde celui-là qui gueule, là, il arrive en. C'est le mari, pas content. Et donc, il avait comme ça un tas de choses à raconter. Et puis, il nous a laissé sans voix en nous disant, et puis il y a aussi quelque chose qui me fascine beaucoup, une question que je me pose depuis longtemps, où s'en vont toutes les larmes qu'on a pleurées dans notre vie? Voilà. Je vous laisse la parole. Voilà, oui, bien sûr, plonger dans l'univers de Fred.
Voilà. si tu veux.
Je vais regarder les planches au mur, elles ont mal.
Mais je suis désolée, je suis un perdu. Je vous laisse la parole, monsieur.
Merci, madame. Merci.
On se pose un oui, mais juste, on pourrait se poser une question pour enchaîner vis-à-vis de ce que vous venez de dire. C'est est-ce que l'univers de Philémon est vraiment un univers d'enfance? Je ne suis pas tout à fait sûr, moi, personnellement. Mais,
moi, je peux vous dire que j'avais fait visiter l'exposition à des collégiens. Et en fait, ils ont tous foncé chercher. J'ai eu après beaucoup d'échos de parents qui ont offert la collection à des enfants de 7 ans. Mais comme vous dites, l'enfant, oui, mais en fait, même si on ne comprend pas,
il y a des choses. Parce que moi, quand j'étais jeune, je détestais. Pourtant, j'étais déjà dans. Je me lissais dans des mondes imaginaires, etc. Mais ça, c'était pour moi quelque chose de très adulte, en fait. Il y avait dans la forme graphique, etc. C'est pour ça que je vous posais la question.
Mais oui, il y a deux... Oui, peut-être.
Peut-être que les enfants sont plus facilement amenés par des adultes à cet univers-là, mais tout ça, je ne suis pas sûr. Ouais.
Je vais dire une chose, oui, ça dépend de l'âge à laquelle on est enfant.
Oui,
ça dépend. On n'est pas nécessairement enfant. D'abord, il est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, ce qui est une chance. Mais l'âge où on est enfant dépend d'un certain nombre d'états. Et moi, personnellement, j'ai été enfant très tard. Et j'ai eu la chance de tomber sur Fred à ce moment-là, et ça m'a jamais quitté.
Oui, et moi, c'est pareil. En fait, c'est plus tard que. C'est pas au moment de l'enfance, en réalité, que j'ai découvert Fred. C'est beaucoup plus tard, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir enfant, j'espère.
Oui, moi, j'ai été enfant trop tôt. Ce qui fait que quand j'étais enfant, Fred n'existait pas. Et de toutes les façons, je le connais mal. Je vais le découvrir. Et pour moi, Philémon. Quand j'entends Philémon, c'est Philémon et Baucis, la légende mythologique. Alors, je vais revoir un petit peu mes classiques. Je m'appelle Claude Aziza. Si j'ai parlé de Philémon de mythologie, simplement parce que dans le civil, si vous voulez, mon métier, c'est d'être professeur de langue et littérature latine à la Sorbonne Nouvelle. Ça, c'est mon métier. Et j'aimais particulièrement les mauvais genres, c'est pour ça que j'en ai commis quelques-uns, sur le péplum bien sûr, et le guide, j'ai écrit un guide imaginaire, un guide de l'antiquité imaginaire, c'est-à-dire que maintenant, j'ai comme titre, puisque je suis en principe historien de formation, j'ai comme titre historien de l'antiquité fantasmatique. Voilà. Il se trouve simplement que le hasard de l'existence et des lectures d'enfance m'a fait tomber sur un Tarzan, un roman de Beroux peu connu, qui est Tarzan dans l'Empire romain. Eh oui. Et j'ai découvert quand même ce qui était une espèce d'alibi de légitimité que Tarzan parlait latin. Or, donc du coup, j'ai commencé à travailler sur Tarzan. Et je suis là pour le centenaire du Tarzan de Beroux. Et donc, en gros, je crois que je m'arrête là, je vais laisser la parole.
Oui, bonsoir, moi je m'appelle Farid Abdeloua. J'ai plusieurs cordes à mon arc en fait, parce que j'ai des productions éditoriales qui sont assez qui donnent dans des genres différents, mais dans le registre de l'imaginaire, j'ai commis un livre qui est une sorte de d'anthologie qui s'appelle Voyage imaginaire, qui est sorti au mois d'octobre. Et puis il y a 2 ans, j'ai fait un dictionnaire sur les mondes extraterrestres. Les deux ouvrages sont des sortes de répertoires, des mises en perspective historiques, qui s'accompagne de beaucoup d'illustrations, parce que c'est important pour moi d'accompagner un principe d'analyse avec aussi une présentation iconographique, parce que les mondes imaginaires pour moi sont autant des mondes de représentation que des mondes d'écrit, donc il y a vraiment l'importance de l'image qui est extrêmement forte, et son analyse et comment elle est, comment on peut la décrypter, et comment les grands archétypes sont permanents à travers l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et cela dit, sur la thématique qui nous concerne, c'est-à-dire les mondes de l'enfance, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose d'ailleurs, hein, thématiquement. Parce que moi, avant de venir, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi les mondes de l'enfance? Parce que si on dit, par exemple, les mondes de l'adulte, ça ne veut pas dire grand-chose. Quoi. Finalement, les enfants sont très différents, il y a différents mondes, etc. Donc peut-être que, je ne sais pas, déjà, on pourrait se poser la question de savoir ensemble ce que c'est que les mondes de l'enfance, et s'il y a vraiment tant de dichotomie entre les mondes des adultes et les mondes de l'enfance, et si la définition de l'enfance n'est pas déjà, a fortiori, quand elle est amalgamée avec l'idée de l'imaginaire, n'est pas déjà une idée un peu ancienne et un peu dépassée.
Moi, je m'appelle Jean-Claude Guignac. Je réalise en vous écoutant qu'en fait, le monde de l'enfance dont moi je me souviens, c'était l'homme qui a marché sur la Lune. J'étais petit à ce moment-là, mais c'était, je sais pas, j'avais 12 ans à peine. Et mon père, qui était médecin, avait acheté la première télé que nous ayons jamais eue pour que nous, les enfants, nous puissions voir ça. Il avait même réveillé ma sœur qui était toute petite, qui avait 5 ans, et il lui avait dit « Tu vas regarder quelque chose qui va changer le monde. » Et j'ai donc ce moment-là qui est mon monde de l'enfance en moi, si je puis dire. Et le résultat de tout, c'est que dans le civil, je suis ingénieur chez Airbus et je travaille sur les projets de recherche et les projets spatiaux. C'est-à-dire que je n'y suis pas allé, mais j'ai contribué à y envoyer des gens. Et j'ai contribué à y envoyer des gens et à travailler justement avec les gens de la station spatiale, etc. Parce que ça me paraissait être la chose normale. C'est l'héritage que j'avais reçu. Ce monde, on m'avait dit, il est là-haut. C'est là que nous irons. Et bon, à côté de ça, j'ai écrit de la science-fiction, ça ne me surprendra pas non plus. J'ai écrit aussi de la fantasy, j'ai écrit de l'imaginaire. Mais en tout cas, le premier monde de l'enfance dont on m'a fait cadeau, comme un cadeau, c'est-à-dire quelque chose en me disant, regarde, tu vas tout déballer, tout va se montrer devant toi. C'était des gens qui arrivaient sur une planète qui avait l'allure d'une plage sale, qui plantaient un drapeau et que le drapeau restait parfaitement rectiligne parce qu'il n'y avait pas de vent, et qui sautillaient en faisant des petits nuages de poussière qui ne retombaient pas. Et ces nuages de poussière qui ne retombaient pas, c'est, je crois, ce qui a fait que mon enfance m'a amené à être ingénieur chez Airbus.
Oui, ben, non, je vais peut-être vous parler d'un monde de l'enfance qui a totalement disparu et qui va vous paraître absolument, peut-être, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Au monde de l'enfance, puisqu'on évoque les mondes de l'enfance, c'était le monde de quelqu'un qui commençait à lire et d'illustrer dans les années 1940. Ça voulait dire qu'on avait quoi à notre disposition ? Eh bien, ça voulait dire que, et je reviens à Tarzan, bien sûr, Tarzan, c'était les éditions Hachette, des éditions coupées, qu'on avait un petit peu comme cela. Et puis c'était dans les années 40, je parle de 1940, hein, 40, 42, 43, pendant la guerre, où on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Et puis tout de suite, dès 44, on a eu d'un seul coup le cinéma américain, mais sous la forme des céréales, c'est-à-dire le feuilleton, si vous voulez, l'ancêtre du feuilleton, et puis la bande dessinée qui est arrivée à travers, qui était déjà dans les années 1930, mais là je n'étais pas encore né quand même, et qui est arrivée sous la forme d'ailleurs, d'une forme assez intéressante de héros américains, et avec la création d'un journal qui s'est appelé Tarzan. Et là, qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, il est arrivé que pendant la guerre, on a par l'intermédiaire, il y avait un journal qui s'appelait Le Petit Téméraire, qui était un journal illustré, qui était un journal que les Allemands diffusaient en France avec une idéologie absolument extraordinaire. Ce Petit Téméraire, on a toujours pensé pendant la guerre que la littérature pour les enfants n'était pas nocive. Ce qui fait qu'en 44-45, il y a eu une épuration, seuls ont échappé les romanciers pour la jeunesse, j'en connais quelques-uns, j'ai travaillé dans ce secteur, et les dessinateurs. Ce qui fait que certains dessinateurs qui travaillaient au Petit Téméraire se sont retrouvés chez Vaillant, c'est-à-dire le journal du PC pour les enfants, qui est devenu ensuite Rahan, en gros, si vous voulez, c'est avec... vous avez celui qui a fait les pionniers de l'espérance, voilà, Poivet. Et puis, d'un coup, donc, l'illustré, le Petit Téméraire, avait une certaine idéologie, mais cette idéologie, on l'a retrouvée en sens inverse. Ça voulait dire que l'anti-américanisme du PC, en 45, 46, c'était quand même 20% des voix, enfin 25, hein, bon, le parti des fusillés, et donc a fait en sorte que le journal Tarzan a été mis à l'index, d'une certaine façon, parce que Tarzan était... Il était américain, mais c'était un homme sauvage, un homme primitif. Donc il y a eu... le journal s'est sabordé finalement, et on assistait à des éducateurs, des profs, des collègues, qui ont montré à quel point Tarzan était bestial, était sauvage, etc. Et c'était intéressant parce que ça reprenait d'une certaine façon la censure qu'Hollywood avait exercée dès 33-34 sur les premiers Tarzan de la série Westmuller. Non pas le premier, mais le deuxième, et vous avez pu remarquer, si vous les avez vus, les 14, qu'à partir du troisième, peu à peu, le slip de Tarzan
descendait de plus en plus, et après c'était un tablier de forgeron, en quelque sorte.
Mais... Parce qu'il y avait le Hays Code qui interdisait de montrer le nombril.
Absolument, oui. Mais alors le nombril de Tarzan, bon, j'expliquerai dans le privé pourquoi justement, à cause de la censure, le code Hays, on ne pouvait pas montrer le censure, le nombril, ça revenait au fantasme sexuel de M. Hays. On n'en parlera pas ici. Mais donc, l'idée, c'était ça. Ça voulait dire que d'une certaine façon... On a eu très brièvement, pour les gens qui ont été enfants et qui ont été comme moi au lycée à partir de 47-48, donc j'avais 10 ans, on a eu à la fois un afflux de bandes dessinées et puis d'un seul coup une censure. Heureusement que dès 48, Spirou et Tintin sont arrivés et qu'on a retrouvé un certain nombre de rôles, etc. Ce qui fait que Tarzan a été, et pour moi, mais je ne connaissais pas les romans. Pour moi, ça a été plutôt un héros de cinéma, puisque les BD n'arrivaient pas. On a eu après, on a eu Hogarth et d'autres. Donc, il y avait toujours un aspect sulfureux dans Tarzan. Et donc, on a dû se rabattre, j'en finirai par là, sur les Tarzans du pauvre, mais il n'y avait pas de Tarzan. Il y avait évidemment celui qu'on appelait le fantôme, hein, le fantôme du Bengale, et puis un certain nombre de personnages. Alors, on a eu des succès d'années français ou italiens. Le Batman est devenu, a donné naissance à un Fantax, Lord Anglais, etc. Le fantôme a donné naissance à un Amok. Il était à Java. Il n'avait pas un chien-loup comme Satan, chien-loup de fantôme, mais une panthère, etc. Et puis, une magnifique reine de la jungle qui s'appelait Durgarani. Ça, ce sont les illustrés en noir et blanc des années 48-50. C'est-à-dire qu'on a vécu dans cela, donc dans des succès d'années qui étaient magnifiques et qui maintenant sont absolument introuvables. Et ce n'est que bien plus tard que, en ce qui me concerne, mais j'étais déjà adolescent, donc ça n'avait plus du tout la même force et le même charme, si vous voulez, et j'ai simplement retrouvé les émotions que j'ai eues en lisant Alix, quand bien plus tard, professeur à l'université, j'ai traduit en latin, par exemple, un Alix, le fils de Spartacus, et je viens de traduire en latin le numéro 1 de la BD Murena, si vous voulez. Mais ça, c'est adulte. Or, les émotions enfantines, elles restent indélébiles. Et c'est là, je pense qu'on passe sa vie à essayer de payer les dettes qu'on a eues lorsqu'on était enfant. Moi, je paie mes dettes envers un certain nombre de... envers le péplum, envers Tarzan, etc. Alors, tout le problème, c'est est-ce qu'un jour, on s'arrête de payer ses dettes et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Voilà. À vous, messieurs, si vous avez des dettes à payer, si vous leur parlez.
Moi, je dirais pas que. Je pense que. J'ai deux, trois remarques à faire par rapport à ce que vous venez de dire. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une identité commune entre, dans le rapport à l'homme sauvage, entre le PC et les nazis. Vous avez bien compris. Ils avaient finalement une interprétation. Enfin, c'est pas très éloigné finalement. Ils ont un regard sur. Enfin,
ça s'est passé en France, dans la censure, dans la création du Petit Téméraire et la destruction de Tarzan. On en tirera toutes les conclusions qu'on voudra.
C'était une époque où on ne disait pas vraiment ce qu'on pensait. Aussi bien chez les nazis qu'au moment où on publiait dans un...
Oui, non, mais ce que je veux dire juste, c'est que, si vous voulez, il y a grosso modo, il y a un plan, enfin, il y a une vision évolutionniste qui situe l'homme sauvage sur un certain niveau de l'évolution.
Le primitif.
Et que, quelque part, entre les communistes et les nazis, finalement, ils situent tous ces hommes sauvages en deçà du bon bourgeois européen.
Des sous-hommes.
Oui, voilà.
C'était des sous-hommes.
Donc, c'est juste au passage, je signale ça, parce que je trouve toujours intéressant ce type d'identité commune qui finalement, trouve des arrangements dans la suite de l'histoire. La preuve, c'est ce que vous avez dit, hein, sur cette réintégration des dessinateurs. L'autre remarque, payer des dettes, oui, par rapport à ce que... Payer des dettes, moi je ne dirais pas ça comme ça personnellement. Au contraire, enfin, parce qu'il y a un côté payer la dette, ça me. Vous voyez, il faut banquer, il faut raquer, enfin, il y a comme si on était redevable. Non, moi au contraire, je trouve que les adultes qui ont perdu leur fascination pour le merveilleux ou l'extraordinaire de l'enfance ou de l'adolescence, parce qu'il y a finalement, ça va, je pense, jusqu'à l'adolescence, ça ne reste pas que. L'enfance, ceux-là sont plutôt ceux qui payent autre chose tout le reste de leur vie. Je trouve que c'est justement quelque chose à cultiver. Et je ne dirais pas payer une dette parce qu'on a l'impression qu'on est redevable. Au contraire, je trouve ça extrêmement positif, moi, de parce que en ce qui me concerne, vous avez parlé de votre expérience. Moi, bon, j'ai eu une fascination pour Tintin très jeune.
Parce que pour le coup, là, Tintin est vraiment... Là, vraiment, ça, c'est transgénérationnel et puis ça a passé plusieurs générations, ce qui n'est pas forcément le cas de Tarzan, je pense. Il y a un moment donné, il y a une cassure, je pense, pour Tarzan, qui s'arrête à ma génération. Je pense que moi, je fais partie, j'ai 47 ans, je fais partie de la dernière génération à avoir été un peu fasciné par Tarzan par l'intermédiaire du père, parce que c'était mon cas, en fait. Hein. C'est mon père m'a initié à Tarzan, mais je pense que s'il ne m'avait pas un peu poussé à cette fascination-là, je ne l'aurais pas eu. Par contre, Tintin, c'est intéressant parce que quelque part chronologiquement, c'est antérieur. Et par contre, là, ça a traversé quasiment tout le reste du XXe siècle et ça fonctionne encore. Moi, j'ai des enfants de 10-13 ans qui sont toujours impressionnés par Tintin. Après, moi, c'est plutôt adolescent, personnellement, que en découvrant des auteurs de science-fiction. Moi, c'est passé par la SF, en fait. Ça a été une porte ouverte sur finalement une sorte de patrimoine philosophique. Auquel je n'avais pas accès culturellement ou sociologiquement, ou parce que je le refusais aussi, parce que la philosophie au sens académique du terme m'était pas donnée, ou je la refusais au sens académique. En attendant, c'est dans les j'ai lu de Sadou, ou les anthologies des écrivains américains type K. Dick ou Clark, ou tous les grands auteurs des années 40, 50, 60 de science-fiction américain, que j'ai eu personnellement les premiers tremblements, si je puis dire, intellectuels et philosophiques, mais physiques. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des vues de l'esprit, c'était une vraie découverte d'un point de vue de la conscience. C'est-à-dire que c'est à travers la science-fiction que j'ai découvert. Et c'est quelque chose que, après, j'ai investi, que j'ai, à travers l'étude ou les expériences personnelles, j'ai découvert ce que le mot métaphysique voulait dire. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à travers des expressions qui étaient considérées comme populaires, ou en tout cas du sous-genre, en attendant, qui ne relevaient pas de l'académisme. Évidemment, aujourd'hui, ça a changé. Un auteur comme K. Dick est apprécié par certains philosophes, mais enfin, moi, quand j'avais 12-13 ans, quand je le lisais, c'était vraiment pas le cas, c'était considéré comme du sous-genre, enfin, de la sous-littérature. Quoi. Et ce que je trouve. Et alors, pour le coup, je dirais pas que j'ai une dette, au contraire, je dirais que ça a été, en dehors de la scolarité classique ou de l'apprentissage traditionnel, je dirais que c'est grâce à des personnages comme ça que j'ai eu un élan, un engagement et une passion et une foi pour autant l'histoire que la spiritualité, que la philosophie et évidemment pour la métaphysique. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire que par le biais de la culture populaire, finalement, et en dehors des créneaux, on va dire, habituels, on puisse être touché par ce type de profondeur-là. Quoi.
Là, c'est quand même, je me sens un peu martien par rapport à vous. D'abord parce que je n'ai pas été, en tant qu'enfant et adolescent, fasciné par un personnage, même par une série, par une BD. J'ai été fasciné par des mécanismes de pensée qu'on m'a appris. J'avais un père qui était médecin, et je suis tombé dans le mécanisme de réflexion, mais tout petit. D'abord pour des raisons assez idiotes. J'ai commencé à apprendre à lire très très tôt, et je lisais mais littéralement tout ce qui me tombait sous la main. Vous me donniez, je ne sais pas, la notice de fonctionnement de la tondeuse en suédois, je le lisais sans aucun problème. Je ne comprenais bien entendu rien. Mais le fait qu'il y ait des mots écrits sur du papier entraînait le mécanisme de lecture et le mécanisme même d'apprentissage. Comme je suis quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle l'hypernésie, c'est-à-dire j'ai une mémoire absolument terrifiante, si j'avais lu à 9 ans le mode d'emploi en suédois de la tondeuse, je m'en souviens encore, ce qui heureusement n'est pas le cas. Et du coup, mon père, par exemple, avait quantité de revues médicales partout. Et particulier dans un endroit très important pour ce qui concerne la lecture, qui sont les toilettes. Et donc, quand j'allais aux toilettes, je prenais la revue sur le sommet de la pile et je commençais à lire résection de la zone du pancréas contenant les idiots de Langlands, avec les images qui allaient bien. Et je lisais ça, à laquelle je ne comprenais rien, mais à laquelle, par simple, je dirais, accumulation de faits, j'avais l'impression d'acquérir une espèce de sentiment incantatoire de la façon de dire les choses. Alors ça, croyez-moi, c'est quelque chose de très perturbant parce que j'ai fait ça une très grande partie de mon enfance. D'autre part, j'avais un père qui était quelqu'un qui adorait son métier et qui adorait le corps en tant que le corps, les viscères, tout ce que nous sommes, en tant que mécanisme parfait. Et un jour, pour vous donner l'exemple de ce que ça pouvait donner, nous recevions des gens, des amis à la maison, des gens qui étaient, je dirais, un petit peu chics, etc., qu'on ne connaissait pas nécessairement très bien, mais enfin, quand on est monsieur et madame médecin dans un petit village, on reçoit des gens comme ça. Et ma mère avait fait une épaule d'agneau. Une épaule d'agneau au four, voyez. Et elle a le malheur, je revois encore, c'est les phrases catastrophiques. Elle dit à mon père, peux-tu découper l'épaule d'agneau? Et ça, c'est une des pires phrases qu'on a pu dire dans l'histoire de l'humanité. Parce que mon père a pris le couteau, a tranché au niveau de l'articulation, il a dit, ah, cet agneau a souffert d'un épanchement synovial. Regardez, il a commencé à retourner la lamelle de chair et il a littéralement disséqué l'articulation de l'agneau pour montrer la manière dont les tendons s'étaient remis en place avec ce truc. En faisant ça, moi j'avais 15 ans, j'étais penché au-dessus, je trouvais ça extraordinaire. Et mon père m'est vraiment coupé, enlevé tout dans ce viande qui le gênait pour montrer la manière dont le mécanisme de l'articulation était. Avec ma mère qui essayait de lui dire, tu sais Mario, tu pourrais servir les gens. Il dit, mais non, c'est vraiment intéressant. Et les invités mangeaient des pommes de terre et rien d'autre. Et les seuls à manger la viande de cet agneau furent mon père et moi. Et là, quelque part, je me suis dit, quel est le problème? Et je crois que j'ai passé ma vie à disséquer cet agneau. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie, dans ma recherche, dans la manière dont j'essaie de comprendre les choses, dont même j'écris mes histoires, je plante le couteau, je regarde. Et quand il y a quelque chose d'intéressant, je me dis, comment ça marche? Bon, on ne m'a pas fait cadeau de personnage, je ne suis pas tombé dans Tintin, je ne suis pas tombé dans les super-héros, mon frère était fan de super-héros, mais moi pas du tout. Je suis tombé dans la boîte à outils, on m'a fait cadeau de tournevis, de ciseaux, de machin, etc. Et j'ai démonté tout ce qui était à ma portée, parce que c'était ça mon enfance. Et lorsque j'ai eu le sentiment que les choses me paraissaient fonctionner d'une façon que je pouvais aimer, pas seulement la comprendre, mais l'aimer, et en particulier vis-à-vis du corps, ben, je suis parti vers une nouvelle aventure. J'ai écrit des histoires où les gens vivent dans des villes de chair, et où, quand par exemple vous voulez une fenêtre, ben, vous caressez un petit peu la paroi et elle s'écarte. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce serait bien un mur qui ferait pousser des poils d'hiver pour que ça me tienne chaud. Et quand je parle de ça, il y a des gens qui me regardent en me disant t'as vraiment des problèmes comme garçon. Et je leur dis, mais pas du tout, ça en vit très bien. Et voilà, je vis dans une ville qui est Toulouse, qui est une ville de briques roses, dans laquelle, quand vous marchez en été sur le matin, la brique est encore chaude sous vos pieds, et vous avez la vapeur qui monte de la Garonne, et vous avez cette espèce de dôme de l'hôpital de la Grave qui ressemble à un saint avec un tout petit étineau au-dessus, qui tremblote, vous savez, sous le... Et juste à côté, en face de l'autre côté de l'eau, vous avez le magnifique clocher de Saint-Cernin, et vous vous dites, bah, j'ai une ville vivante qui ne demande qu'à s'en aller. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Et effectivement, quand je raconte ça, ben, les gens me regardent d'un air un petit peu bizarre, mais on le vit très bien. Et on a un rapport au monde qui est formidable. C'est ça qu'on m'a donné quand j'étais petit.
Oui, mais quand je vous écoute, vous êtes un créateur. C'est très bien, c'est bien. Je suis... Non, ben, vous créez des histoires.
Personne n'est parfait.
Non, vous créez des histoires, je comprends. Mais je ne sais pas si ça peut intéresser le public. On se rend difficilement compte maintenant de ce que pouvait être l'itinéraire d'un jeune homme en fonction de la littérature de son métier. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait avec Jacques Guamard, qui était mon ami, qui est mort il y a quelques temps, j'ai fait une encyclopédie de la science-fiction. Donc, c'est aussi un domaine que je connais. Quand je suis universitaire, depuis, assistant, prof et tout, depuis 1973, ça fait 40 ans. Donc, j'étais tout jeune. Au moment où, quand on est universitaire en France, dans une spécialité qui est la mienne, c'est-à-dire le latin, on est, et en plus c'était le latin chrétien, bon, peu importe, parce que je suis historien des religions, par formation scientifique, vous voyez, on se rend compte difficilement de la difficulté qu'on peut avoir d'être à la fois latiniste, historien de l'Antiquité chrétienne. Je suis spécialiste des relations entre les juifs, les chrétiens et les païens dans l'Afrique romaine, par exemple. Donc, entre ça et entre des envies, des connaissances et des lectures. Et je vais vous donner un exemple dont je rougis encore, mais ça y est, j'ai écrit chez Klinsic dans la collection 50 questions un Tarzan, un autre, si vous voulez, qui s'appelle Toi Tarzan, moi femme. Et payer une dette, c'est important, parce que quand on a une dette, enfin, je me tiens à mon expression, voilà, donc je rentre comme assistant de latin à l'université de Nice en 1973. J'étais dans le secondaire avant, et c'était le retombé de 68. J'écris, j'ai une idée de collection, comme ça, c'était une page, et j'écris
deux livres, l'un sur Tarzan, l'autre sur Louis Stern, mais des livres pour lesquels on travaille, c'est-à-dire des cahiers-livres, on devait travailler dessus. Je vais voir les héritiers de Beaux, je leur montre ça, le Tarzan, c'est génial, on vous donne tous les droits, etc. Au moment où je publie ça, des amis, mon patron de thèse, je n'avais pas encore fait mon thèse, me disent « Très bien, c'est parfait, mais si tu publies ce Tarzan et ce Western sous le nom de Claude Aziza, ta carrière universitaire, elle est foutue. C'est même pas la peine, tu quittes tout de suite, tu regagnes ton lycée ou ton collège, j'étais au lycée Masséna à Nice, j'étais très bien d'ailleurs. Et puis c'est fini. Donc, j'ai commis une action honteuse, mais je peux le dire maintenant, puisque dans mon bouquin, dans la préface, je m'en excuse, j'ai écrit ces deux livres sous pseudonyme. Ce qui m'a permis de faire une thèse, et puis d'être prof à la Sorbonne. Mais j'ai été le premier, et là aussi, à m'attirer la haine de mes collègues latinistes de Paris 4, la mauvaise Sorbonne, moi je suis Paris 3, la bonne Sorbonne. Et donc, car j'étais le premier à diriger des mémoires de maîtrise et des thèses sur quoi ? Sur la bande dessinée, Astérix, Alix, sur la science-fiction. Je fais une thèse sur Silverberg, par exemple, l'utilisation de l'Antiquité. Moi, je travaille sur l'Antiquité. Chez Silverberg, sur la science-fiction, sur le cinéma, parce que j'ai lancé à la Sorbonne la première unité de valeur d'histoire et d'esthétique du péplum dans l'université française. Donc, là-dessus, mais j'étais patron. Et c'est ça le drame de l'université. Mais maintenant, c'est plus le drame. Ça veut dire que vous suivez les rails et clandestinement, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes patron, personne ne vient vous emmerder. Vous faites ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il m'a fallu donc, pour rigoler, passer par une thèse d'histoire des religions pour pouvoir travailler ensuite sur la bande dessinée, le cinéma, le péplum, la science-fiction. C'est un itinéraire complètement aberrant, si vous voulez. Voilà. Ça, si on ne connaît pas l'université française des années 70...
Oh, ça a duré jusqu'à... Ça fait que très peu de temps que ça
très peu de temps. Donc ça, c'est l'université. Et voilà les risques.
Vous n'avez aucune dette à payer, monsieur Aziza. Vous avez fait la guerre et vous avez gagné, finalement, quelque part.
J'ai fait la guerre de l'intérieur. J'aurais pu la faire de l'extérieur.
Parce qu'aujourd'hui, les cultures populaires que vous avez défendues et vous avez été un des premiers, finalement, elles sont reconnues. Après, il y a d'autres débats peut-être là-dessus. C'est comment ça va évoluer.
Bien sûr.
Et comment... parce que moi, je ne sais pas, j'ai souvent remarqué qu'il y avait... pour le chemin de croix sur l'université, pour avoir fait un petit passage à l'université, j'imagine que ça a dû être. Et moi, c'est pour ça que j'en suis parti, d'ailleurs. Parce que ce chemin de mine, là, sur lequel vous êtes passé, etc., je n'ai pas eu le courage ou la volonté de ou alors j'aurais été moi-même peut-être un peu plus meurtrier. Mais en attendant, est-ce que finalement la culture aujourd'hui, si on peut se poser cette question-là, parce que c'est aussi dans le registre de l'enfance, finalement vous êtes intéressé à des domaines qui relevaient de votre fascination d'enfance. On est d'accord, vous l'avez dit.
Absolument.
Un. Deux, ensuite vous avez porté ça et vous l'avez inscrit à un niveau académique. On est d'accord, maintenant la guerre est finie et finalement ces mauvais gens ne sont plus
stigmatisés. Légitimés. Voilà.
On est d'accord.
Légitimation.
Trois, est-ce que finalement, c'est une question, hein, est-ce que finalement les mauvais gens d'hier ne le sont plus tout simplement parce qu'ils sont d'hier? Et est-ce que finalement il n'y aurait pas un nouveau, entre guillemets, un nouveau combat sur les vraies cultures populaires d'aujourd'hui qui finalement, je pose la question, hein. Moi, j'ai souvent l'impression qu'on reconnaît plus les cultures populaires d'avant-hier que d'aujourd'hui. Mais est-ce que finalement, si maintenant, là, tout de suite, vous intéressiez à la culture du rap, de la vidéo, des jeux 3D, etc., ça marcherait autant que Tarzan ? C'est une question.
Si je peux me permettre, il y a une différence gigantesque entre maintenant et ce que nous avons connu. Quand j'avais 14 ans, j'avais lu la totalité des livres disponibles dans mon village. Vraiment. Et je n'avais plus de livres à lire. Arrivé en seconde au lycée, découvrir qu'ils avaient une bibliothèque de 4500 bouquins dont il me restait facilement 700 à 800 à lire, ça a été le sentiment d'un truc. Ça n'existe pas maintenant. D'autre part, il y avait une époque où un certain nombre de cultures étaient entre guillemets bonnes, d'autres étaient mauvaises. Les livres étaient bons, les petits dessins ne l'étaient pas. La musique classique était bonne, le rock ne l'était pas. Le jazz, on ne savait pas trop, mais donc, de toute façon, personne n'en faisait, puis il fallait être bon en musique, donc ça ne comptait pas. Il y avait des choses comme ça. Maintenant, ce qu'on appelle la littérature, enfin la culture, entre guillemets, populaire, elle va du manga au rap, aux séries télé, en passant. Elle a ses propres codes, elle est extrêmement morcelée, elle a vécu ce qu'a vécu la mode, qui n'est plus une mode uniforme, mais qui est une collection de regards simultanés existants, et surtout, elle est dans un état d'hyperproduction, de sur-hyperproduction. Nous avons à notre disposition des dizaines de milliers de choses dans tous les domaines possibles et inimaginables. Un gamin qui, d'un seul coup, s'intéresse, je sais pas, au manga, au rap, etc., rien que par Internet, par ses copains, il a de quoi se nourrir pour le reste de sa vie. Moi, j'en suis arrivé à un stade, par exemple, j'avais publié des bouquins chez moi, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, il faut que je m'en débarrasse, je suis passé au numérique. Eh bien, j'ai accumulé suffisamment de livres numériques, je lis plusieurs langues, pour lire tout le reste de ma vie. Si je commence à lire maintenant, en m'arrêtant qu'à l'heure des repas, et si je vis jusqu'à 95 ans, disons, j'ai encore des livres d'avance. La question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai accumulé d'autres? Je peux, hein, il y a toujours la place. Mais est-ce que ça a un sens, vous voyez? Ce qui est une question qui n'existait pas quand nous étions enfants. Donc cette chose-là fait que les mondes d'enfance de nos petits, de nos ados, etc., se traduisent par une abondance gigantesque et ils prennent de tout. Ça va de la série télé à l'épisode de film, à, je sais pas, au jeu 3D, à tout ce que vous pouvez imaginer, au jeu de rôle, grandeur nature, etc. Une accumulation de choses phénoménales à partir de laquelle chacun pioche, fait ce qu'il veut. Et il n'y a même plus de notion de légitimité. Le manga a été considéré comme illégitime en France pendant une période d'à peu près 6 mois. Au bout de 6 mois, ça marchait tellement que ça a été complètement débordé par la base. Il n'y a plus de gens qui me disent « Non, non, le manga, il faut arrêter. » Quand Astérix Uderzo a fait cette espèce d'album calamiteux où il essaie de faire lutter les bandes dessinées comics américaines contre les vilains mangas, l'éclat de rire a été général. Ça a été considéré comme pathétique. On était déjà à 10 km devant, vous voyez ce que je veux dire. La non-légitimité, elle n'existe plus. C'est très, très difficile. Être non-légitime, c'est très, très difficile. Moi, j'ai fait du rock, et je continue à en faire, je ne comprends pas. Il n'est plus possible d'être provocateur en rock. Vous arrivez avec un truc, mais absolument épouvantable, on vous dit « Super, ça va dans la case là de la FNAC. » Vous dites « Il y a déjà une case pour ça ?» Tu dis « Oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu y vas avec machin, tu y vas avec truc, etc. » Ben oui, ça existe là. Les Sex Pistols arrivés, on ne savait pas où les mettre. Maintenant, on vous dit « Ah non, ils sont dans la case, effectivement, punk rock, machin. » Ils sont très violents au sens où ils dépècent les enfants ou ils se contentent de tuer des animaux sur scène. Attendez, il faut que je regarde les enfants. Non, non, ça va être encore les animaux. Bon, c'est la case B, les enfants, c'est la case A. On en est là, vraiment, littéralement. Donc on n'est plus choquant. On n'est plus en état de culture alternative. Et c'est une des choses qui manque à nos enfants, c'est la capacité à un moment donné de dire moi j'ai ma culture à moi que mes parents ne comprennent pas.
La culture alternative, c'est pas forcément la culture populaire, hein, attention. Parce oui. Effectivement, là, tu as raison, c'est qu'il y a eu une récupération du système financier, on va dire, enfin, marchand, de toute forme d'altération et de différence. L'underground, ça ne veut plus rien dire, c'est devenu un label, c'est devenu marque de fabrique dans tous les registres, hein, y compris dans le domaine de graphique, BD, on est d'accord. Mais pour la culture populaire, c'est pas sûr ça, parce qu'il y a quand même des grands phénomènes aujourd'hui, malgré tout, et effectivement qui sont dans un système extrêmement. Johnny Weissmuller à Hollywood, il était aussi extrêmement conforme à toute une structure de pensée, etc. Donc, les grands succès des blockbusters aujourd'hui, des super-héros, etc., ils ne sont pas plus formatés que, quelque part, à toute proportion gardée, que Johnny Weissmuller à la fin des années 30. Enfin, je pense pas.
Il y avait une culture populaire des enfants et des adolescents qui n'était pas celle des parents, qui était justement intéressante parce qu'elle n'était pas celle des parents. La BD, ça se lisait en cachette sous les draps.
C'est vrai que les barrières se sont...
En France, pas aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
En France.
Parce que les comics aux États-Unis, je pense qu'ils étaient des gamins comme des parents.
Oui, c'est surtout ça, dans le journal du dimanche.
Voilà.
En France. Oui. Non, mais il y a un problème, quand même, parce qu'on parle de culture populaire, et qui est liée à ce que la question que vous posiez...
La culture populaire en France, finalement,
c'est ça. Et de récupération.
Oui.
Moi, je vois autour de moi, maintenant, ça s'est passé dans l'Ouest-Est. J'étais très lié avec... un prof d'histoire géo de la Rochelle qui s'appelait Jean-Louis Rieu-Pérou, que tous les amateurs de western connaissent, et qui a été premier à écrire en France la grande histoire du western, etc. Parce que le western est un genre méprisé jusqu'au moment où un critique qui s'appelait Bazin a commencé à parler du western. Et Rieu-Pérou a écrit beaucoup de livres sur le western. Et puis après, j'avais comme président de l'université de Paris 3 un spécialiste du western qui avait fait sa thèse sur le western, qui s'appelait, il est mort, on peut en parler maintenant, qui s'appelait Jean-Louis Le Trac, que j'ai très bien connu, et on parlait, il me disait « Oui, c'est bien Rieu-Pérou, mais enfin,
c'était un précurseur. Il n'avait pas la structure universitaire. Oui, j'étais un prof de collège. Il a fait de bonnes choses, mais que ça. Et j'entends maintenant, et ça va venir d'ailleurs, on dira peut-être, permettez-moi de me mettre en scène, dans quelques temps, en disant, mais avec, je ne suis pas Rigueux Pérou, moi, en disant, il faut bien le dire, je suis quand même prof de fac. Donc on dira, Aziza, oui, c'est bien, oui, oui. Ah, oui, il a parlé du péplum, il faut bien dire, c'est un jornier, oh, merde, etc. Moi, je me sers du péplum comme outil pédagogique avec mes étudiants. Le péplum, ça m'emmerde. Moi, mon cinéma, c'est le western. Bon, je dirige le festival du film d'histoire de Pessac. C'est pour ça que le cinéma, je connais. Donc, on commencera à dire, je vois de jeunes universitaires qui vont se plonger dedans, oui. Oui, c'est bien, oui, on a travaillé sur le péplum, mais pas avec des méthodes universitaires. On n'a pas fait de sémiotique, on n'a pas fait de psychanalyse, on n'a pas fait de linguistique. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Et du coup, cet objet de plaisir va être récupéré, va devenir un objet d'étude. Et toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On l'a fait pour la BD. Mais alors le problème, c'est que je crois qu'il faut remonter un petit peu. Il faut remonter justement au lien entre d'abord le roman populaire et puis ensuite ce que lisaient les enfants. Donc, permettez-moi de remonter à 1842. Les Mystères de Paris. Roman feuilleton, roman populaire. Qui a employé le premier le terme populaire? C'est la presse socialiste de l'époque. Quand les Mystères de Paris sont sortis, on a dit, voilà, ça c'est un roman populaire. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on était en 42, que depuis 1830, la loi Guizot permettait à 80% des Français de n'être plus analphabètes, que la presse avait une diffusion tellement forte que les abonnements ne coûtaient plus d'argent, parce qu'autrefois, il fallait se réunir chez la concierge pour lire un seul journal, donc le journal tournait, les rotatives, et plus il y avait de lecteurs, plus le journal était bon marché, et que pour attirer le lecteur, on avait justement quelque chose qui est arrivé avec le roman feuilleton, évidemment, Sue, Dumas, il y en a eu d'autres, Balzac, mais oui, Balzac, c'est le premier roman feuilleton, c'est d'ailleurs la vieille fille de Balzac. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est passé que, peu à peu, sous d'ailleurs l'influence, mettons dans les années 1860, 65, sous l'influence de quelqu'un qui s'appelait Hetzel, et ensuite qui s'est lié avec celui qui s'appelait Jean Massé, on a commencé à se dire que peut-être pour les enfants, il fallait peut-être faire quelque chose. Et le premier livre, eh ben, ça a été en 65, Saint-Semain en ballon, de Jules Verne, qui a été repris par Hetzel et qui a donné des instructions très précises à Jules Verne sur les voyages extraordinaires. C'était donc une littérature pour les enfants. Et puis, on a eu, évidemment, la comtesse de Ségur, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, et pour les filles Zénaïde Floriot, qu'on appelait la Ségur du pauvre, etc., etc. Mais il s'est passé quoi? Eh bien, maintenant, en 2005, je suis venu ici. La dernière fois que je suis venu ici, en 2005, j'avais écrit un livre sur Jules Verne, autour de Jules Verne en 80 mots. Et donc, il s'est passé, ça m'interpelle, si vous voulez, il s'est passé ceci, c'est qu'il y a eu une inversion des choses. Jules Verne, considéré comme, à tort, comme écrivain pour enfants, a fait l'objet de thèses, d'études, d'un seul coup, on s'est aperçu que c'est un écrivain absolument formidable. Et quelqu'un comme Dumas, qui n'a jamais été considéré comme un écrivain pour enfants, même s'il a écrit des contes pour les enfants, dans des éditions qui ont été plus ou moins tronquées, etc., a été tenu dans le plus grand mépris, mais jusqu'à ces dernières années, à l'université, parce que c'était pourquoi? Parce que c'était un écrivain pour adultes qui avait le tort, en France c'est terrible, d'avoir beaucoup de succès et d'être lu par tout le monde. Tandis que Jules Verne, dans le cadre des écrivains pour enfants, donc maintenant on assiste à une réhabilitation de Dumas, un peu depuis 2002, si vous voulez, la panthéonisation, mais c'est intéressant ça, comme perspective à l'envers, si vous voulez.
Est-ce que ce n'est pas bêtement, je vais dire une méchanceté, mais je la crois quand même vraie,
oui,
au fait que les universitaires détestent parler de choses qui ont du succès que les autres connaissent,
absolument, mais
qui se trouvent face à des gens qui connaissent aussi quelque chose à ce sujet-là. Tandis que parler d'un auteur totalement inconnu et que personne d'autre n'a lu, c'est avoir la certitude de ne jamais être lu.
Tu as tout à fait raison. C'est ça le problème.
Bien sûr.
Le succès tue en France.
Oui, oui, c'est terrible d'ailleurs. Parce que, justement, mais bon, ça, c'est encore une histoire. Enfin, je ne vais pas jouer, mais c'est quand même une histoire de classe, tout ça, quand même. Parce que, finalement, sur Dumas, Verne, si on peut, sur le comparatif, hein, Verne, il appartient aussi à un appareil idéologique.
Bien sûr.
Dumas, non.
Bien sûr.
C'est-à-dire que Hetzel, la Troisième République, oui, l'éducation, la pédagogie,
Jean Massé,
la science, la pédagogie de la science, le positivisme, enfin, on pourrait faire une liste infinie comme ça, qui nous dirait au final que Jules Verne était finalement un peu la voix de son maître, si je puis dire, qui serait un petit peu quand même, non j'exagère, mais...
de son père Hetzel, de son papa spirituel.
Il avait ses propres visions, il partageait ses opinions-là. Et certains des livres qui ont été publiés sous Jules Verne, je pense à ceux qu'il n'a pas écrits, en particulier Jean 1500 millions de légumes,
d'André Lory, mais André Lory était un communard.
Oui, il était un communard, et ça reconnaît bien l'idée des choses. Mais Jules Verne ne l'a pas fait contre un forcé, il l'a fait parce qu'il y croyait. Il l'a fait parce qu'à cette époque-là, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait en même temps sur le plan de l'art, il y avait le phénomène des art and craft, il y avait l'apparition du train qui accélérait les choses. La littérature, et en particulier l'idéologie véhiculée par la littérature, elle a toujours été associée au rapport au temps que l'on a, au temps que l'on met à mettre les choses et à la manière dont l'information circule. Quand le train est arrivé, d'un seul coup, la France est devenue un pays. La France et les autres pays sont devenus des pays. Parce que sinon, les gens ne sortaient pas de leur village ou ceux qu'ils faisaient partaient dans des contrées inconnues. Le train vous permettait, quand vous étiez à Toulouse, d'aller passer une semaine à Paris. Alors que moi-même, j'ai été élevé par une nourrice dans mon village, un village à Montauban, à côté de Montauban, pour que le fait d'aller à Toulouse, avait été une expédition qui avait fait deux fois, on s'est dit, on parle encore. Donc ce rapport au temps, c'est quelque chose qui a entraîné que les livres sont allés plus vite, que la narration a foncé, que les gens ne se sont pas contentés de s'installer et de prendre le temps de laisser mûrir les choses, ils ont eu la bougeotte. Et actuellement, la littérature que lisent nos enfants, c'est une littérature qui est décorrélée de celle que nous lisions, parce que nos livres ne vont pas assez vite. C'est un truc qui nous crève le cœur dans à peu près tous les domaines, mais les grands classiques de la science-fiction des années 40, 50, 60 sont devenus lisibles pour les gamins de 12 ans. Et là, parce que
on peut dire la même chose pour le cinéma.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a, à la limite, il n'y a pas d'image, enfin, des plans secondes qui sont assez rapides.
Les enfants, gamins, les gamins de l'Odyssée de l'espace, et au bout de demi-heure, on regarde en disant, mais c'est quoi cette daube? Alors que 2000 l'Odyssée de l'espace, 2009, pour l'enfant que j'étais, c'est un truc. C'est pas possible, c'est extraordinaire. Jamais je n'oublierai ça. Et vous leur dites, mais quand est-ce qu'il se passe quelque chose? Ils vous disent. Et vous leur dites, mais vous ne trouvez pas que ça, c'est ça. Mais quand est-ce qu'il se passe quelque chose? Et donc, ce rapport au temps, ce rapport à l'immédiateté qui est né des séries, qui est né du manga, il ne faut pas oublier qu'un manga, ça se lit comme ça. Une page de manga, c'est une seconde. Une page d'Astérix, c'est demi-heure. On n'a pas la même. Une page de Tintin, c'est un mois et demi, quelquefois. Donc, on a même tout le même rapport au temps. Et ça veut dire que tout ce que nous croyons être de la littérature populaire d'une certaine époque ne marche que si elle respecte le fait d'aller à toute vitesse. Et un des exemples les plus étonnants pour ça, c'est L'île au trésor de Stevenson dans son sens. L'île au trésor de Stevenson, on connaît tous les grandes scènes de Stevenson, vous savez, le moment où le vieux pirate refile la marque noire, le moment où le gamin se cache dans le tonneau de pomme, le moment où... Le seul problème quand vous lisez le bouquin, c'est que vous apercevez qu'il n'y a que ces scènes-là. La grande force de L'île au trésor, qui est un tout petit bouquin, c'est qu'il n'y a que les scènes que tout le monde connaît et rien d'autre. Quand la scène est terminée, le chapitre est fini et ça commence par trois semaines plus tard, il se passe à ceci et on attaque à la ligne 4 la nouvelle scène. Eh bien, ça, c'est un livre qui se lit encore. Vous essayez de faire la même chose avec n'importe lequel des Dumas, il y a des trous. Et ne parlons pas des Jules Verne. Le gros problème des Jules Verne, c'est comme disait Jean, c'est qu'ils sautent. Vous avez des gamins qui disent Jules Verne, en sautant tout un tas de passages. C'est encore pire que le Seigneur des Anneaux.
Il faut dire que quand même, il y a des passages chez Jules Verne. Quand même,
le Seigneur des Anneaux, c'est un truc dans lequel mes filles, qui ont 26, 27 ans et demi, ont lu le Seigneur des Anneaux à cause des films, mais ont sauté des tas de passages. En disant, mais qu'est-ce qui perd du temps à raconter tout ça?
C'est pareil avec Narnia de Lewis. Parce que c'est exactement la même chose. Moi, j'ai essayé de le faire lire à mon fils. Il avait adoré le film. Moi, j'avais le bouquin. Et bon, mais c'est vrai aussi que c'est des auteurs qui tirent aussi la ligne.
Lentement, les mondes de nos enfants.
Le cinéma a sa responsabilité. Par exemple, tu as tout à fait raison. Regardons toutes les adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma. Elles sont toutes réduites à l'affaire des Ferrets de la Reine. Et les Ferrets de la Reine dans les Trois Mousquetaires, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, jamais, et la plupart des choses, Monte Cristo, il y a des pans entiers de Monte Cristo qui arrivent extraordinaires, qui sont supprimés. Or, tous ces romans, on est arrivé maintenant à les connaître plus par le cinéma
que par
la lecture. Et on arrive à des choses assez extraordinaires. J'ai beaucoup travaillé sur Dumas au cinéma, donc je rencontre beaucoup de réalisateurs, et une chose extraordinaire, qu'un des derniers Dumas qui a été fait par un réalisateur américain, j'ai lu son interview, l'avant-dernière mouture des Trois Mousquetaires, on lui a dit j'espère que vous avez lu le roman, hein, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il dit, mais pas du tout. Moi, je n'ai pas voulu lire le roman pour ne pas être influencé par le roman. C'est la technique du cinéma qui est qu'on reprend tout simplement la version précédente. Les Italiens font ça, les Américains font ça. Et on continue et on refait. Ouais. C'est extraordinaire.
Et ça, on retrouve souvent ce principe d'avatar un peu désubstantialisé, si on peut dire.
Oui, absolument.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un modèle qui était juste... dont le troisième degré était repris et réorchestré. Quoi. Moi, ça me fait penser à ce que disait, le philosophe Junger, qui comparait le XXe siècle à une balle qui partait à travers l'espace et qui serait allée de plus en plus vite. Et je pense qu'il y a cette accélération du temps évidente, et que cette accélération du temps, elle se retrouve finalement dans les constructions fictionnelles et dans les constructions imaginaires. Mais ce qui est-ce que c'est pour autant, parce que tout souvent par rapport à ça, est-ce que c'est pour autant embêtant pour les générations à venir? Est-ce qu'on tourne pas au vieux con aussi en disant attention, parce que ouais, c'est un peu le danger.
Ouais, vous êtes un jeune con, moi,
vieux
con.
C'est
tout à fait normal.
C'est pas simplement une différence. La question que je voulais vous dire, c'est que moins bien. Mais typiquement, entre ce que nous vivons maintenant et ce que moi j'avais vécu, il y a deux choses qui ont changé. Donc, un, l'abondance, deux, la vitesse. Effectivement, quand on a un journal de bande dessinée par semaine, eh ben, on le lit plusieurs fois. Parce qu'entre le jeudi où on l'achète et le jeudi suivant, ben, on aura celui-là. Et il fait que 48 pages, eh ben, on va le lire plusieurs fois. Et on va prendre le temps de s'attarder dessus parce qu'il n'y a pas de quoi faire. Donc l'abondance, la surabondance, a supprimé ça. Parce que quand j'ai fini mon manga, il y en a un autre. Puis encore un autre, puis encore un autre. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Puis deuxièmement, il y a le problème de la lenteur qui fait qu'on essaie d'aller au fond des choses parce qu'on veut tirer le maximum du truc. Et ça va plus ou moins vite suivant les époques. Et bien maintenant, vous avez des enfants qui ne relisent plus parce qu'il y a toujours quelque chose de neuf. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur les anciens. Et qui vont vite dans leur lecture, qui sautent des passages parce qu'ils ne veulent que les choses qui les intéressent. Ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est un rapport différent au monde. On surfe plus vite.
Je me suis fait avocat du diable, excuse-moi. Mais cela dit, c'est vrai aussi, et ça, moi, je le constate à travers le vecteur plutôt éducationnel et pédagogique, que cette accélération du temps implique une inflation au niveau de la concentration chez les enfants. C'est-à-dire que dans le rapport au temps, parce que ce temps est accéléré, les gamins, et ça, ça semble par contre, on finit par être des jeunes vieux cons, hein, tant pis, mais les gamins, parce qu'ils sont dans cette consommation finalement permanente, hein, ont un problème réel de concentration parce qu'ils n'arrivent pas à se poser dans le temps et dans un temps qui soit un petit peu plus large que celui de la consommation rapide, si on peut dire.
Oui, sauf qu'il y a quand même une contradiction qui est que, et c'est vrai, la culture classique, ça n'existe plus pour une culture classique, hein, mais il y a déjà bien longtemps, je ne parle même pas de Montaigne, que Corneille, Racine et Molière sont devenus lisibles bien longtemps. Et peut-être parce qu'on ne travaille pas, mais peu importe. Donc, la culture classique, elle ennuie, semble-t-il. Nos enfants n'arrivent pas à lire, mais je ne comprends pas qu'on puisse dire ça. Et d'un autre côté, ils lisent les 3000 pages d'Harry Potter. Alors, il y a un problème. Hein, il y a effectivement, c'est qu'est-ce qu'on leur donne à lire? À quoi les a-t-on habitués? Quel est leur environnement, à la fois littéraire, mais en même temps sociologique, psychanalytique, etc. Mais d'un autre côté... On ne peut pas non plus forcément traduire Racine dans le langage d'Harry Potter pour pouvoir... Non, mais là, on a une contradiction dans notre enseignement.
Par contre, on peut faire le même enseignement sur Harry Potter qu'on aurait pu faire sur Racine.
Absolument.
La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est simplement parce que nous sommes assez fossilisés, au point de vue idée, au point de vue façon d'enseigner. Mais on peut rigoureusement faire la même chose parce que Harry Potter, c'est très bien écrit, narrativement, c'est très astucieux, et il y a tout un tas de couches de sens sur lesquels on peut faire tout un tas de types d'approches et on peut apprendre aux enfants. Ce qui est l'apprentissage, le seul et important, c'est apprendre à extraire de l'information de ce qui les entoure et à la corréler. C'est la seule chose que l'école apprend. Apprendre à extraire de l'information cette information, la mettre en revers avec d'autres informations et à partir de là, extraire de la connaissance et des opinions. C'est ça que vous apprenez. Ben, vous pouvez faire rigoureusement la même chose avec Corneille et avec Harry Potter, sauf que les élèves seront beaucoup plus attentifs avec Harry Potter, et dans 20 ans, leurs enfants seront en train de lire autre chose qui sera le Harry Potter de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que nous, nous sommes encore en train de dire que pour une raison qui n'a jamais été claire dans mon esprit, il vaut mieux lire Maupassant, qui est un écrivain extraordinaire, je suis d'accord. Mais ce n'est pas un écrivain de maintenant. Ce n'est pas un écrivain dans lequel la manière de décoder Maupassant est suffisamment intéressante pour qu'on en extrait des choses qui aient du sens pour nous, de la façon dont on le fait.
Ben finalement, oui, au fond, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on arrive à avoir deux types de culture et qu'il faut qu'à côté, bon, il y a les programmes scolaires, on dira ce qu'on voudra, mais on a d'un côté une culture qui est une culture, on va dire, académique, entre guillemets, qui est la culture de l'école. Mettez Harry Potter à l'école, eh bien, on passera à autre chose. Ça veut dire qu'il faut, on revient au début, il faut qu'il y ait dans l'enfance, pour les enfants, les collégiens, deux types de culture. Il faut qu'il y ait la culture officielle, la culture académique, même si elle ne l'est pas à nos yeux, hein, et puis leur culture. Et c'est pour ça que finalement, à la fois, l'idéal, ça serait quand même de combiner les deux. Ça veut dire qu'on peut à la fois goûter la culture du collège ou environnant, de l'école, de l'université, mais en même temps avoir son jardin secret et sa culture. C'est ce qui s'est toujours passé. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Je n'en sais rien.
Là, je vais te rentrer dedans parce que
j'adore comme rentrer dedans.
Il y a un énorme problème qui est un problème extrêmement grave, si je puis me permettre, tel que je le ressens. C'est mon opinion et je la partage. Nous, les écrivains, nous, les artistes, on n'est pas neutres. Au sens où vous, les gens, les adultes, les gens qui réfléchissaient, et ça commence très tôt dans la vie, vous fabriquez la réalité comme une des fictions possibles. Parce qu'il n'y a pas la réalité et les fictions. La réalité n'est qu'une des fictions possibles. Vous avez tout un tas de trucs qui vous viennent, des journaux, de la télé, de vos voisins, de ce qui a été dit à l'école, etc. Et à partir de là, vous faites une image du monde. C'est ça qu'on fait. Puis on fait ça toute sa vie. Hein. On fonctionne tous de cette façon-là. Le travail de fabrication de cette image du monde, qui est un travail de narration, ce sont les artistes que vous aurez pratiqués dans votre vie qui vous apprennent comment le faire. Si nous, artistes, nous vous apprenons à traiter, par exemple, une grande masse d'informations de façon superficielle pour en tirer quelque chose, nous ne vous donnons pas la même vision du monde que si on vous apprend à traiter un petit nombre d'informations de façon profonde. Et c'est vrai, c'est une chose complètement différente. Et à notre époque, avec l'hyperinflation d'informations, avec l'hyperinflation de choses qui changent d'un truc sur l'autre, de nombre de possibilités de s'attarder, est-ce qu'il est cohérent pour un artiste d'apprendre encore à un enfant de se contenter d'un petit nombre de choses qui traitent de façon approfondie? Moi, je pense que non, parce qu'il va faire à ce moment-là l'impasse sur quelque chose qui est très important, qui est apparu et qui apparaît encore, c'est la complexité. De génération en génération, notre niveau de complexité augmente. Actuellement, un enfant intègre à 12 ans les petits Chinois, les Japonais, l'espace, les Martiens, les mangas, nous avons toute une population extrêmement vaste, là où le même gamin un siècle plus tôt, à la limite, il avait son village et le village à côté. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on fait des choses approfondies, locales, sans prendre le temps de glaner cette espèce de masse gigantesque de trucs qui nous arrivent pour en tirer quelque chose, de manière très superficielle, même d'un extrait de l'écume, et cette écume, elle vaut de l'or, bien, si on ne leur apprend pas ça, bien, on leur fait passer à côté du monde. Et vous avez actuellement deux catégories de gens en France. Vous avez ceux qui savent surfer sur cette masse d'informations et qui, d'une certaine façon, sentent le sol sous les pieds. Et vous avez ceux qui, à un moment donné, ont laissé passer plein de trucs. Et laissé passer plein de trucs, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais on m'a dit ça !» et qui ne se rendent pas compte qu'on a dit ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit autre chose à côté qu'il faut mettre en corrélation. Et ça, on ne l'a pas appris. Bien, moi, je trouve qu'on a, nous, artistes, une énorme importance, parce que c'est nous qui apprenons aux enfants, parce que c'est avec ça qu'ils jouent, à partir de nos fictions, à construire la leur. Et si on ne la leur apprend pas bien, eh bien, on ne fait pas notre boulot.
Je crois qu'il faut arrêter, mais c'est très bien que l'artiste... C'est bien qu'on finisse par l'artiste.
Si l'artiste se donne quand même un rôle, qui, à mon avis... Mais
oui,
bon,
enfin, pas ça. Pour un prochain débat. Nous sommes que des artisans, dans un cas pareil. Alors, salut l'artiste.
Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on s'offre encore 5 minutes, allez, on parle...
5 minutes, on peut 5 minutes? La censure nous laisse...
Ça va, ouais.
Si vous pouvez se livrer à une toute petite expérience, comme Jules Verne n'est pas une lecture pour enfants, comme l'a dit M. Aziza, est-ce que vous pourriez nous parler de votre probable lecture d'enfance de Jules Verne, chacun de vous trois, s'il vous plaît?
Probable lecture d'enfance. Vous voulez dire qu'on vous parle de la façon dont on lisait Jules Verne quand on était enfant?
Puisque ce n'est pas une lecture d'enfance. Puisque Jules Verne n'est pas un écrivain.
Non, et officiellement, c'est un écrivain pour enfants, mais
vous donner un exemple, si vous me permettez. Jules Verne est un écrivain très subversif, officiellement. Là, je réédite un Jules Verne peu connu, qui va sortir dans 15 jours, sur l'indépendance du Québec, qui s'appelle « Famille sans nom ». Quand on veut, quand on regarde les voyages extraordinaires et qu'on laisse tomber les grands voyages, on s'aperçoit les 5 ou 6 titres, si vous voulez, 5 semaines en ballon, le tour du monde 80 jours. Et même, quand on regarde, on s'aperçoit de la sympathie de Jules Verne envers les anarchistes, les libertaires, Nemo, par exemple, et de son antipathie envers tout ce qui est le pouvoir. Le seul Jules Verne où il donne tort aux résistants révoltés, c'est Michel Strogoff. Pourquoi ? Parce que je crois bien qu'il a été influencé par l'ambassade de Russie, parce qu'il y avait tout un problème. Parce que dans Michel Strogoff, effectivement, c'est les révoltés, on ne va pas rentrer dans les raisons de la révolte, c'est les révoltés qui ont, d'une certaine façon, le mauvais rôle. Dans tous les autres Jules Verne, il est toujours, mais à sa façon, si vous voulez, il est toujours du côté de la révolte. Il est toujours de regardez ses derniers titres, par exemple.
Et sur la fin, il me semble qu'il est quand même il est un peu plus pessimiste. Ah, mais il remet en cause l'idée du noir quand même.
Mais il a toujours été pessimiste. Quand vous regardez le premier, ça se met en avant, vous apercevez qu'à un moment donné, il dit le monde est une vaste poudrière, je cite comme ça de mémoire, et un jour ou l'autre, tout va éclater. Il est très pessimiste.
Moi, il me semblait qu'il avait quand même un peu viré dans les dernières années.
Oui.
Et que, un peu quand même.
En plus. Les naufragés du Jonathan, qui est semble-t-il son dernier titre, repris par son fils Michel d'ailleurs.
Oui, ça a été repris.
C'est terrible.
Ouais. Et qu'il avait une vision plus noire et que quelque part, la vision, enfin, l'idéologie du progrès qu'il Absolument. Avait quand même légitimée pendant plusieurs décennies, tombait un petit peu à l'eau quand même, il me semble.
Bien sûr.
Pour répondre à la question de monsieur, moi, j'ai détesté profondément Jules Verne jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et en fait, aujourd'hui, si j'aime Jules Verne, c'est parce que j'ai compris et j'ai mis du temps à le comprendre. Ça a été par la force des choses parce que je suis très honnête. Moi, il m'ennuyait. Le tour du monde en 80 jours, c'est quand il donne l'heure toutes les 3 secondes, c'est le cas de le dire. C'est je trouve ça illisible et stylistiquement, il peut être d'une lourdeur épouvantable. Ensuite, je me suis aussi rendu compte, à travers certaines lectures, que le héros, cette espèce de prétention scientifique, déjà à l'époque, était souvent obsolète. M. Aziza va peut-être pouvoir me
Absolument.
Fait,
comme 10 000 preuves.
Voilà, que déjà à l'époque, quand il fait ses grandes leçons sur les différents. Par exemple, dans le voyage à l'intérieur de la Terre, il fait des grandes leçons sur les différentes couches, sur les différentes strates de l'évolution, etc. Déjà à l'époque, c'était des informations scientifiques qui étaient dépassées. C'est intéressant déjà ça. Bon, bref. Par contre, là où il a commencé à m'intéresser, c'est que c'était. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu schizophrène. Verne, mais je me trompe peut-être, parce qu'il est multifacette, il est un peu polyvalent, il est en même temps, effectivement, il a un côté très positiviste, et en même temps, par moments, on a l'impression qu'il rejette ce qui le fascine. Enfin, je sais pas, il y a ce côté double tranchant chez lui. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une identité artistique là qui était un peu plus subtile que ce que je pensais avant. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le phénomène historiographique, si on peut dire, en tant qu'objet d'histoire, parce que vous étudiez, vous commencez un petit peu, enfin moi je l'ai fait un tout petit peu, beaucoup moins que monsieur, mais vous étudiez un petit peu Verne et vous le replacez dans le contexte des années 1880 et vous avez quelque part une sorte de tranche extrêmement riche de l'imaginaire et à la fois de l'état des mentalités de l'époque. On peut dire que c'est une sorte de radiographie très riche et très, très pluridisciplinaire. Voilà. Bon, mais à part ça, moi personnellement, en tant que auteur au sens littéraire du terme, ça n'a jamais été ma tasse de thé.
Moi, j'étais un petit peu à la verticale de vous deux, si je puis dire, parce qu'il y avait deux auteurs à cette époque-là qui, pour moi, se ressemblaient beaucoup, qui étaient aussi Claude, ça peut paraître Rabelais et Jules Verne. La différence étant que Rabelais était pour moi totalement rock'n'roll, parce que c'était quelqu'un qui, à la limite, mettait des espèces de géants, des trucs extraordinaires, qui faisaient ce dont ils avaient envie, puis ils le faisaient, puis ils voyaient bien ce que ça allait donner. Et ça, moi, c'était l'idée rock'n'roll des choses. Je trouvais ça extraordinaire. Rabelais reste l'auteur que je relis 50 ans après avec toujours autant de bonheur. Il y a des passages que je connais littéralement.
Mais la différence, si on peut dire, c'est que chez Rabelais, il y a une vraie puissance créatrice de l'imaginaire, alors que chez Jules Verne, finalement.
Alors que Jules Verne, un truc.
Mais la ressemblance, c'est l'amour du mot. Oui, c'est l'amour du vocabulaire.
Une chose qui était quand même pas anodine pour l'adolescent que j'étais ou pour le gamin que j'étais, c'est on a tout ça là. À la limite, on va pouvoir voir si on peut construire quelque chose avec et s'amuser bien. Vous voyez, c'est l'île mystérieuse, on arrive dans une île totalement sauvage, etc., etc. Puis quand on repasse 6 mois après, les mecs, c'est juste, ils n'ont pas la télécommande pour le portail. Et ça, c'est génial. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et il y a une scène dans le film Apollo 13 qui est tout à fait ça, où ils sont donc, il s'est produit une explosion à bord, les trucs sont en train de tourner là-haut, ils sont complètement coincés, on ne sait pas, ils ont un gros problème parce qu'ils vont vivre dans le module et puis ils n'ont pas assez d'oxygène parce qu'il faut faire communiquer la pièce A avec la pièce B et puis ça n'a pas été fait par les mêmes et ça ne communique pas. Et à un moment donné, vous mettez 5 ou 6 ingénieurs dans une pièce, vous le déversez toute une quantité de bordel, un tout nouveau bordel, et vous leur dites, voilà ce qu'ils ont, trouvez-nous un moyen de relier le point A au point B. Et les mecs, ils arrachent la couverture du manuel, ils font une espèce de tube de carton avec, ils bricolent, ils font du bricolage, mais du bricolage de Tintin. Et ça, c'est du Jules Verne. Et les gens qui ont vécu Jules Verne, c'est les gens qui font ça. Moi, en tant qu'ingénieur, ce qu'on appelle une solution d'ingénieur, vous avez le mec qui vous dit, ah mais attends, ça ne va pas marcher, il faut remplacer la pièce, tu dis, tu sors une pièce de monnaie de ta poche, tu bricoles, tu sors un cure-dent, tu sors un truc, puis tu dis, voilà, ça va tenir 10 minutes, mais comme la présentation tient 5, ben c'est bon. Ben moi, j'ai fait ça toute ma vie.
Ouais, c'est et la,
ça,
c'est, la, c'est le côté astucieux.
C'est le côté, merde, on est intelligent, oui. On peut construire une structure là où il n'y a que du chaos et la rendre suffisamment prégnante pour que ça.
Il y a derrière tout ça, on va arrêter de ouais, il y a derrière tout ça aussi une idée de l'homme qui est pas si agréable que ça. Enfin.
Ah non, c'est clair, on est le fouteur de bordel, c'est clair. Ouais. Et c'est vrai que l'île mystérieuse, quand on est passé par là, elle est beaucoup moins bien que quand on est
allé. Voilà. C'est clair. Ouais.
Bon, on s'arrête. Merci à vous.